Dans ce journal, on vous parle de ces discussions qui auront lieu demain à l'ONU. On fait aussi un point santé avec ce congrès consacré au cancer masculin. Et puis on s'intéresse au système alimentaire en Océanie. Et ce journal, c'est avec Valdemar Delage. Bonjour Valdemar.
Bonjour Kevin, bonjour à toutes et à tous.
L'État discutera à l'ONU au sujet de la décolonisation de la Polynésie.
Oui, alors qu'une délégation polynésienne s'est envolée ce week-end pour le siège des Nations Unies, c'est à New York, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, a annoncé ce matin la participation de la France à la table des discussions. Elles auront lieu demain à l'occasion de la 4e commission des Nations Unies qui traite notamment des questions relatives à la décolonisation. Cette annonce, vivement attendue par les indépendants, est une grande première depuis 10 ans et la réinscription de la Polynésie sur la liste des pays à décoloniser. Durant cette commission, une partie de la délégation polynésienne pourra s'exprimer, dont Moëté Broserson, qui bénéficiera d'un créneau de 7 minutes.
Et dans cette délégation, une figure montante de la politique locale.
Il s'agit de Mareva Kitalong Le Chat. Elle a pris en mai dernier la tête de la délégation aux affaires internationales, européennes et du Pacifique. Alors Mareva est titulaire d'une double licence de droit et lettres modernes obtenue à l'Université de la Polynésie. Elle a ensuite obtenu son doctorat en sciences politiques de l'Université de Bordeaux en 2011. Et à son retour, elle est embauchée au cabinet d'Oscar Temaru, puis le suit en tant que collaboratrice à l'Assemblée de la Polynésie. En 2017, elle dirige la campagne victorieuse de Moëté Broserson pour les législatives et partage ensuite son temps entre l'Assemblée nationale et Taraoï avant de travailler sous la direction d'Edouard Fritsch au sein de cette délégation qu'elle dirige à présent. Un service chargé de mettre en œuvre l'annonce du président sur l'établissement de représentation polynésienne à l'étranger. Et la première chose est d'en évaluer le coût avant qu'une décision politique puisse être réellement prise.
C'est une possibilité qui existe depuis longtemps finalement dans notre statut, qu'on n'a pas mis en œuvre et que la Nouvelle-Calédonie a mis en œuvre. Et justement, une des nombreuses missions de mon service, c'est de faire ce travail de prospection parce que ça a quand même un coût. Mais oui, il y aura l'ouverture de représentation. Le président a annoncé Fidji, la Nouvelle-Zélande et Canada parce qu'il commence à y avoir pratiquement autant d'étudiants polynésiens au Canada qu'en métropole. Cette francophonie fait que ça pourrait être une bonne idée en effet de commencer par là.
Vous l'avez entendu, on parle notamment d'une représentation à Fidji, centre politique de la région, qui concentre notamment le Forum des îles ou la représentation de l'Union européenne.
Fidji, c'est le centre politique, déjà avec le Forum des îles du Pacifique, où donc les réunions des ministres de l'économie ont lieu, des ministres du commerce, et le ministre en charge de la condition féminine, et ministre des Affaires étrangères, énormément d'ambassades, donc une ambassade de France par exemple, énormément d'organisations internationales ont une annexe à Fidji, et nous d'ailleurs, on aimerait bien devenir membre associé ou membre observateur de ces annexes, par exemple comme l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation pour l'agriculture.
Voilà, et dans son domaine de compétences, les déplacements à l'étranger et ceux qui critiquent ces déplacements des membres du gouvernement, Mareva Kitalong Le Chat répond que chaque mission a un intérêt pour le pays, sinon on n'irait pas, dit-elle. Parfois c'est aller s'inspirer de ce qu'en font nos voisins, parfois c'est nous qui inspirons les autres, parfois c'est aller chercher des fonds ou aller chercher des soutiens politiques. Elle estime que c'est sans doute à nous de mieux communiquer sur cet aspect.
Un congrès consacré au cancer masculin.
Ouais, le moment est bien choisi. Alors que s'ouvre Octobre Rose consacré au cancer féminin, la Ligue contre le cancer ne veut pas oublier les cancers masculins de la prostate et de la vessie. Et c'est ainsi que se tient cette semaine un congrès d'oncologie consacré à ces cancers, dont on compte 130 à 150 nouveaux cas chaque année en Polynésie. Comme pour les cancers du sein et des ovaires, la Ligue contre le cancer veut surtout encourager le dépistage. On écoute le docteur Richard Mallet, chirurgien urologue à Périgueux et vice-président de l'Association française des urologues.
Le premier conseil, c'est tout d'abord de se faire suivre, d'aller voir son médecin et d'envisager un dépistage le plus tôt possible, à partir de 50 ans en théorie, jusqu'à 75 ans, voire même plus tôt en cas de cancer familial associé au sein et à l'ovaire. Et faire deux choses, tout d'abord, le toucher rectal, malheureusement, il faut passer par là, et un dosage du PSA qui est un marqueur sanguin du cancer de la prostate.
La génétique ne joue un rôle que dans 1 à 5% des cancers masculins, mais les médecins attirent l'attention sur le fait qu'il ne faut pas seulement se référer aux hommes de la famille. Un historique familial de cancer du sein est un facteur de risque supplémentaire pour les hommes, et les médecins recommandent alors un dépistage annuel à partir de 40 ans. Des examens qui peuvent être complétés par une IRM. Côté traitement médicamenteux, des progrès ont également été faits qui augmentent de manière significative les périodes de rémission. C'est aussi pour la Ligue contre le cancer l'occasion de souligner là encore l'importance des médecins généralistes généraliste dans le dépistage et notamment dans les archipels. Les urologues présents à Tahiti vont également participer à des interventions chirurgicales au laser à la clinique Paofei sur des pathologies non cancéreuses de la prostate. Enfin, une infirmière sexologue interviendra aussi durant ce congrès pour parler du maintien de la vie sexuelle après un diagnostic ou un traitement.
Souvent, un fossé se creuse dans le couple et les gens finissent par se recroqueviller chacun dans leur souffrance sans pouvoir aborder le sujet. Alors que quand on le prend même avant l'opération et le traitement et qu'on intègre vraiment la partenaire, le processus, ça la permet déjà qu'elle soit rassurée sur le fait qu'une perte d'érection n'est pas forcément une perte de désir et qu'il y a effectivement des solutions. Et éduquer aussi l'homme à une autre forme de sexualité qui n'est pas que phallocentrée, et ça c'est le plus difficile.
Une conférence publique et gratuite est prévue le samedi 7 octobre de 9h à midi, c'est à la mairie de Pierret.
Ouais, santé toujours, le pays promet de lutter contre la maladie d'Alzheimer.
Ouais, la journée mondiale de cette maladie, c'était samedi, à la présidence, en présence d'associations et de structures. Les objectifs, mieux faire connaître la maladie, faire connaître les acteurs publics et privés qui viennent en aide aux malades, notamment en dispensant des formations. Autre objectif, insister auprès des pouvoirs publics pour faire comprendre l'importance et l'urgence de l'action, alors que la population du fait nous a vieilli. Et le ministre de la Santé Cédric Mercadal a annoncé une meilleure prise en compte de cette maladie dans le prochain schéma d'organisation sanitaire, mais aussi le remboursement de certains médicaments pour soulager les malades.
Aujourd'hui, ce n'est pas remboursé. En métropole, ça l'est. Il va falloir faire adapter notre réglementation. Le coût n'est pas énorme par rapport au nombre de malades. Et c'est surtout du bien-être pour les familles qu'on va accorder et du bien-être pour les gens dans leur quotidien. C'est vrai, l'activité de gériatrie n'est pas assez développée en Côte-d'Ivoire. On a pris un retard là-dessus. Ça fait 10 ans que ça aurait dû être mis en place. On va travailler sur le médico-social au sein de la future école d'infirmières pour l'assistance à domicile, pour l'assistance aux personnes âgées.
Et pour rappel, les symptômes d'Alzheimer surviennent généralement après 65 ans, mais les premiers signes de l'atrophie du cerveau s'observent parfois une quinzaine d'années avant le déclenchement visible de la maladie. L'espérance de vie est ensuite d'une dizaine d'années difficiles à vivre pour le patient, mais aussi pour son entourage.
Et des chiffres désormais, ceux de la délinquance, et d'ailleurs ils ne sont pas bons.
Oui, elle est en hausse au Fénois, selon le service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Entre 2021 et 2022, la Polynésie montre la plus forte augmentation dans tout l'ensemble français. Au niveau des violences sexuelles, plus 24% et des vols violents, plus 48%. Les violences intrafamiliales augmentent, elles, de 15%, davantage que dans tous les autres territoires ultramarins. Les escroqueries, elles, augmentent de 30%. Et cependant, à la différence de la métropole et des départements d'outre-mer, le trafic et l'usage de stupéfiants sont en forte diminution.
Cette semaine, on s'intéresse au système alimentaire en Océanie.
Oui, ça se passe du côté du Hilton Tahiti avec Protège, le projet régional océanien des territoires pour la gestion durable des écosystèmes. Il organise un séminaire d'une semaine au Fénois. Alors, créé en 2019 et financé par l'Union européenne, Protège a pour vocation d'améliorer les économies des territoires en les rendant plus durables. Et pour la première fois depuis sa création, l'organisation réunit dans un même lieu des personnes issues de secteurs très divers, venant de territoires différents, mais qui participent tous à composer le système alimentaire de leur région. Par système alimentaire, entendez toutes les personnes qui interviennent du fa à pou à l'assiette. Les précisions de Clément Gandet, coordinateur régional en agriculture du projet Protège.
On voit aujourd'hui que les systèmes alimentaires, c'est la croisée des chemins. Ça touche la santé, on voit qu'on a des gros sujets de santé dans tous nos pays. Ça touche l'environnement, le changement climatique, c'est une réalité partout. Ça touche aussi la vie chère, c'est un des problèmes, ou le problème le plus important pour la population. Et souvent, c'est quoi quand on passe à la vie chère? C'est d'abord la nourriture. On voit que quand tous ces trois-là se percutent, que le sujet de l'alimentation, c'est une porte d'entrée pour vraiment traiter tous les maux de la société aujourd'hui et ceux qui nous arrivent dans les années à venir.
Et quand on parle d'alimentation en Océanie, on parle surtout du secteur primaire avec l'agriculture et la pêche. Objectif donc de cette rencontre, discuter de comment améliorer la nutrition des Océaniens avec une agriculture et une pêche moins impactantes, plus équitables. Car si l'agriculture dispose d'un cadre, il reste encore un gros travail à faire sur le secteur de la pêche. Écoutez.
La filière est moins structurée en fait que celle agricole en fait. Tout le monde est pêcheur, tout le monde pêche en face. Et de se dire, va falloir maintenant qu'on réfléchisse à comment est-ce qu'on peut effectivement épargner nos ressources d'une surexploitation. Donc comment rendre le système en fait durable. Continuer à exploiter, mais durablement. On n'a pas travaillé aujourd'hui sur la pêche côtière, en particulier avec des associations dans le cadre de Protège, mais on a bien conscience qu'à l'avenir, en fait, c'est vraiment dans une gestion concertée, on appelle ça une co-gestion, en fait, qu'on va trouver des solutions.
Voilà, vous avez entendu le coordinateur régional pêche, c'était Mathieu Juncker au micro de Vatiaré Pereir.
Et puis du futsal pour terminer.
Oui, la sélection tahitienne est actuellement en Nouvelle-Zélande pour y disputer la Coupe des Nations d'Océanie qui sert cette année de support aux qualifications pour le Mondial 2024. Les Tahitiens ont bien débuté avec un premier match remporté 5-0 contre Samoa et un match nul 5-5 hier contre les favoris, les îles Salomon. Demain, les Tahitiens disputent leur dernier match de poule contre la Nouvelle-Calédonie. Ils sont pour le moment en très bonne voie pour se qualifié pour les demi-finales. Voilà, un peu de sport avant de nous quitter, l'occasion juste de donner quelques résultats du week-end. En nage en eau libre, Naël Roux a remporté l'Océan Swimming Race entre Punaouia et Moréa en 5h38. Toujours dans l'eau, mais sur un va, la team Air Tahiti a remporté la Arenui Race ce week-end. Et enfin en surf, les jeunes espoirs du Fénois ont disputé la Coupe de Tahiti à Papara. Nos champions juniors sont Maone Kea Yoe chez les garçons et Kiara Gold chez les filles. Voilà Kevin, je te rends l'antenne.
Merci beaucoup Valdemar.
Coupe du monde de rugby 2023. On refait les matchs avec la Fédération polynésienne de rugby.
Et cette Coupe du monde de rugby à 15 2023 qui se déroule en métropole est toujours en cours dans 20 jours. Ça sera la grande finale. Et pour le moment, on est avec Gilles Lafitte, directeur technique de la Fédération polynésienne de rugby. Yorana Gilles.
Yolana, Kevin, Yolana à tous.
Comment tu vas en ce lundi après un week-end chargé en matchs?
Ben oui, écoute, 5 matchs ce week-end, le dénouement de cette première phase de Coupe du Monde approche à grands pas. C'est les derniers matchs, et notamment on a un match fin de semaine qui est important pour la France, puisque ça sera France-Italie.
Exactement.
Voilà, on attend avec impatience ce match, mais il y a eu des matchs intéressants et très intéressants ce week-end. Et notamment, j'ai un coup de cœur pour Fidji-Géorgie qui s'est passé samedi.
Ah ouais, je pensais que ton coup de cœur allait balancer plus du côté pour l'Afrique du Sud face à Tonga.
C'est dimanche, alors je crois qu'on va parler des matchs de samedi.
Eh bien alors, on va commencer avec les matchs de samedi. On vous rappelle bien sûr que jeudi, on fera l'avant-match du match France-Italie. Celui qui nous intéresse le plus, ça sera du côté de Lyon. Mais avant ça, direction donc samedi avec 3 matchs. Le premier, c'était Argentine-Chili. Ça se passait du côté du Stade de la Beaujoire à Nantes. 59-5 pour l'Argentine. Large victoire de leur côté.
Bah oui, bah écoute, les Chiliens argentins se connaissent bien. L'Argentine a pris le dessus très largement malgré la fougue chilienne. Mais bon, voilà, ça n'a pas suffi et c'est un score sans appel 59-5.
Exactement. On va rappeler en même temps.